Bonsoir mes frères et sœurs, mes amis. Quel bonheur de se retrouver autour de la parole de Dieu. Alors comme l'a dit Lucas dans les Cantiques, c'est vrai que la vie elle est faite de difficultés, d'épreuves, de combats. Je ne pense pas vous annoncer quelque chose. Et dans le psaume 73, nous avons un homme, un chrétien, qui aimait Dieu, qui se trouvait dans la maison du Seigneur pour le louer, responsable de la chorale de Jérusalem. Cet homme, il avait une responsabilité spirituelle et pourtant, il s'est fait piéger. Est-ce que vous savez que ça peut arriver de se faire piéger? C'est intéressant de lire ce psaume. Alors, on va le lire. Il est long, mais ça ne fait rien. On va voir ce qui s'est passé. Ça résume ses combats. Les combats, si vous deviez les résumer, vos combats, est-ce que ça serait facile toujours? Résumer les combats dans certaines situations. Des fois, c'est pénible, les combats, non? S'il fallait, franchement, il faudrait écrire, par exemple, un soir, les combats qu'on a eus dans une journée. Bon, il y a des journées plus difficiles que d'autres. Il y a des jours mauvais. C'est écrit dans la Bible. Il y a des jours mauvais. Ça veut dire qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres. Et franchement, il faudrait résumer sur une page ou deux ou trois les combats que nous avons eus. Je pense que ça ne serait pas facile. Et là, nous avons un homme qui le fait d'une manière poétique, mais il le fait. Psaume 73. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, on pourrait commencer toutes nos journées en disant, c'est bien, j'aime Jésus, je crois en Dieu, Dieu est bon. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est bon? Bien sûr, on peut dire que Dieu est bon. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié, parce qu'on a fait des expériences, plusieurs qui nous ont montré à juste titre que Dieu est bon. Toutefois, oui, ça part mal, hein, ça part vite. Hein. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Pire, regardez, pire maintenant. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, alors ça, c'est l'apothéose. La difficulté fut grande à mes yeux. Donc, 16 versets qui indique un homme qui, malgré le fait qu'il était capable de louer et de remercier Dieu parce qu'il était bon, est dans un état de confusion, de jalousie. Il est là, il ne comprend pas. Moi, je me suis appliqué et eux, ils font le mal et ils prospèrent. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. En plus, il connaissait la loi. C'est un homme qui composait des cantiques. Dieu avait dit, si tu m'obéis, je te bénirai. Si tu m'obéis, tu seras heureux, tu seras prospère. Et lui constate que les méchants sont plus prospères que lui. Et c'est une confusion, il n'en peut plus. Et plus il réfléchit, en principe quand on réfléchit, ça s'améliore, non? Et là, plus il réfléchit, plus la difficulté grandit. Vous voyez que les combats, ils existent. C'est pas vrai? Il y a des combats pénibles. Et pourtant, c'était quelqu'un de bien. Il a terminé comme prophète. Il a commencé à jouer des cymbales dans la chorale. Il a fini comme prophète en Israël. Quand on regarde le processus d'Azaph, c'est quelqu'un. Il a terminé vraiment comme un conseiller de David, prophète. C'est vraiment quelqu'un. Mais malgré le fait qu'il ait bien terminé, et ça c'est bien, il a passé des moments difficiles. Et bien que Dieu soit béni pour les moments difficiles. Parce qu'en vérité, les moments difficiles, même si on ne comprend pas pourquoi telle personne... Ah ben c'est vrai, après tout, il fait n'importe quoi, il a l'air heureux, il a l'air heureux. Parce qu'on n'est pas heureux en vivant dans le mensonge. On n'est pas heureux quand on vit dans le péché. On peut penser que la personne, elle magouille, elle a la conscience tranquille, mais laissez-moi vous dire que tout ça, c'est de l'à peu près et c'est surtout pas définitif. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on pourrait parler longtemps de ces combats parce qu'on peut en parler et ça ne nous épuiserait pas beaucoup parce qu'en fin de compte ça rassure parce qu'on a tous nos combats. C'est vrai qu'on des fois on ose en parler, des fois on n'ose pas en parler, des fois c'est délicat, il y a des jardins secrets. Est-ce qu'on peut parler aux autres de tous nos combats? Mais non, c'est pas possible, il y a des choses qui sont personnelles. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Même si, quand on est honnête, je vous disais l'autre jour que j'avais discuté avec une femme qui pensait au suicide, j'ai discuté avec les 7 ou 8 personnes qui étaient autour et toutes ont dit qu'elles avaient pensé au suicide. C'est pour vous dire qu'on a tous les mêmes tentations. Ça peut être une tentation. Après, c'est un péché vraiment de céder, parce que quand même, c'est pas à la volonté de Dieu que nous nous supprimions, parce que nous n'avons pas affaire à la grâce de Dieu quand nous acceptons une telle tentation. Mais c'est une tentation. Vous voyez, mais les gens parfois n'osent pas en parler. Pourquoi? Parce que c'est la honte de parler de ces choses. Et pourtant, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça a duré. Pourtant, il était dans le temple, vous voyez. Il était dans la maison du Seigneur. Il louait Dieu. D'ailleurs, il le dit. Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà, on peut chanter. On peut chanter, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. En plus, on n'est pas du tout en désaccord parce qu'on sait que c'est vrai. Et en même temps que l'on chante ces choses aussi merveilleuses les unes que les autres, en même temps être pris dans un combat qui peut nous épuiser et nous éloigner de Dieu, même si on réfléchit. Parce que la réflexion, si elle n'est qu'intellectuelle, si elle n'est que psychique, elle va s'aggraver. Vous voyez le verset, on va repartir du verset 16. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il avait besoin d'éclairage. » Eh bien, la difficulté fut grande. Vous avez comme ça dans votre version ? Vous avez une autre version ? Je sais qu'il y a des versions plus précises encore. J'ai vu que c'était difficile. Oui, c'était difficile. Il y a des choses difficiles. Il y a des choses de plus en plus difficiles. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même une réaction. Il connaît Dieu, donc il arrête de réfléchir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'approche de Dieu. Et vous pourriez me dire, mais attends, mais tu sais ce que tu dis ? Il est dans la maison de Dieu. Eh oui, on peut être dans une église et s'éloigner de Dieu. On peut être physiquement dans une église et ne pas avoir le cœur ouvert. Est-ce que vous comprenez? On peut être là dans une assemblée et ne pas être sensible aux choses spirituelles. On est là par routine, par habitude, parce qu'il était payé par la chorale, il fallait qu'il fasse son boulot. Mais le problème, c'est qu'il faut faire attention à la routine, aux habitudes, au train-train. Quand on vient dans la maison de Dieu, la Bible dit « Prends garde à ton pied, quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter ». Et là, il y a tous ces combats, je ne sais pas combien de mois ça a duré, parce qu'il y a des mois. Combien ça peut durer un combat ? Combien ça peut durer ? Il y a des combats qui durent un jour, bon, ça va. D'autres, il y a des combats qui durent 5 minutes, on commence à s'inquiéter, puis on dit, stop, je refuse de m'inquiéter, parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ça a duré 5 minutes, mais un combat, ça peut durer combien de temps ? Les épreuves les plus longues, tiens, on pourrait en parler. Quelles ont été les épreuves les plus longues dans votre vie ? 3 mois ? Moi, la plus longue, elle durait que 5 ans et demi. Je trouvais que ça commençait à faire long quand même. Elle s'est arrêtée du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. 5 ans et demi, c'est long, 5 ans et demi. Combien de temps peut durer une épreuve? Vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein. Ça peut être long, une épreuve. Les Hébreux dans le désert, je trouve que ça dure longtemps. Les épreuves, ça peut durer longtemps. Donc, on va voir cette démarche, bien sûr, de grâce et de restauration, car ce qui nous intéresse, ce n'est pas que l'épreuve dure ou qu'elle ne dure pas. Ce qui est important, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme, pour s'en sortir? Alors, verset 17, « Jusqu'à ce que je pénétrai dans les sanctuaires de Dieu. » Donc, quelle différence extraordinaire entre aller à l'église et aller à l'église avec le cœur ouvert et en disant « Maintenant, ça suffit, j'ai assez galéré, j'ai assez réfléchi, ça ne sert à rien, j'ai besoin de m'approcher de Dieu. » Regardez bien. « Et j'ai pris garde au sort des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Quoi ? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton image, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait. » Voyez, un des dangers dans l'épreuve, c'est qu'on peut s'aigrir. Est-ce que vous le savez, ça ? Oui, vous le savez, parce que ça nous est tous arrivé, dans des moments difficiles, d'avoir un peu d'amertume, un peu d'irritation, ou plus, ou beaucoup même, oui ou non ? Oui, lorsque mon cœur, il est honnête, oui, c'est un psaume qui est dans la Bible, ce psaume. Donc, c'est une expérience que Dieu a utilisée pour que nous puissions nous aussi nous sortir des épreuves et connaître la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, vous voyez, ça devient psychosomatique, lorsque la souffrance commence à se ressentir sur le corps. Ça arrive, ça peut arriver, ça ? Ouais, il y a des gens, ils ont des angoisses, il y a des gens, ils ont des problèmes d'estomac, ils ont de la sclérose, le cœur qui s'endurcit, c'est prouvé, ça, etc. Je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard, regardez bien, ça va loin, hein. J'étais à ton égard comme les bêtes. Là, bon, c'est grave, hein. Ça prouve qu'on peut avoir un comportement animal, ça veut dire quoi ? Que l'esprit est mort. Parce qu'un animal, est-ce que c'est intelligent, un animal ? Est-ce que les animaux sont intelligents ? Puisqu'ils disent qu'ils sont intelligents, comme les bêtes. Mais est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des perroquets qui sont intelligents ? L'autre jour, on a été dans une maison, on entendait. Et j'ai dit, monsieur, vous avez quelqu'un qui tape ? Non, non, c'est mon perroquet. Il tape souvent. Et il parlait, etc. Il y a des animaux. Un cheval. Est-ce que c'est intelligent, un cheval ? Est-ce qu'il y a des chevaux intelligents ? Ben oui. Etc. On pourrait parler d'intelligence. Mais ils n'ont pas d'esprit. D'ailleurs, on le voit, regardez la page, mais dans le psaume 32, il y a une indication supplémentaire par rapport au comportement des animaux. Et là, c'est grave. Parce que ça nous montre jusqu'où va le combat. Les combats spirituels. Où on est, et là, c'est pire, c'est pas grave, c'est David, un homme qui connaissait Dieu. Et pendant un an, il s'est mis en vrac. Regardez bien, qu'est-ce qu'il dit ? Psaume 32, verset 9. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. » Qu'est-ce qui se passe ? On les bride avec un frein et un mors dont on les pare. Quelle est l'explication ? Afin qu'il ne s'approche pas de toi. Donc, un animal n'a pas d'esprit, quelle que soit son intelligence. Donc, un animal ne peut pas s'approcher de Dieu. Combien d'hommes et de femmes ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Jésus-Christ, ne croient pas au sacrifice du calvaire ? Ils sont des hommes animaux. La Bible parle de l'homme animal, de l'homme qui n'a pas l'esprit, dont l'esprit est mort. La Bible parle de l'homme spirituel, de l'homme charnel et de l'homme animal. Là, ce n'est pas bon signe. Quand les gens vous disent « Oh, moi, je ne crois pas en Dieu, moi, je ne crois pas, etc. etc. » afin qu'il ne s'approche pas de toi. Parce que le vrai drame, c'est empêcher. Ce que le diable veut, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est que les gens ne s'approchent pas de Dieu. Parce que s'ils s'approchent de Dieu, ils vont passer par Jésus-Christ. Et s'ils acceptent Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, ils seront sauvés. Parce que Jésus-Christ, il est mort sur le bois de la croix, justement pour donner cette facilité de s'approcher de lui. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'on ne s'approche pas de Dieu, eh bien c'est qu'on devient non pas charnel, mais animal. Alors c'est une image peut-être un peu forte, mais qui indique que les gens ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas se soucier de leur âme. Parlez-leur de la croix, ça les fait rire. Parlez-leur du sang versé, ça les fait rire. Parlez-leur de la colère de Dieu, ça les fait pouffer de rire, alors que la Bible nous dit, mais qui t'a appris à fuir la colère à venir ? Voyez ? Afin qu'il ne s'approche pas de toi. Et même des chrétiens, la preuve, peuvent se faire piéger par des combats qui s'intensifient parce qu'on a peur d'en parler, parce qu'on n'ose pas en parler, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment secrètes, etc. Mais là, nous avons un homme qui réagit, il dit, voilà, la solution, c'est Christ, la solution, c'est Dieu, la solution, c'est la parole de Dieu, il faut que je cherche Dieu, même si pendant un moment, j'étais bête, j'étais idiot, je n'ai pas pensé à m'approcher de Dieu. Et regardez le résultat, parce que quand même ce qui nous importe à nous, c'est ce résultat. Il est dans un état de grâce, regardez, au verset 23, tout bascule. Cependant, je suis toujours avec toi. Il réalise qu'il s'est fait piéger, il ne comprenait pas la présence de Dieu. Regardez bien les bénédictions qui vont suivre malgré l'épreuve. Je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, tu me recevras dans la gloire. Enfin, déjà ces quatre paroles, moi je trouve que ça suffit à bénir quelqu'un. On les relit, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire, à l'opposé des méchants qui eux iront en enfer. Et il le comprend, il aime le Seigneur, et il continue avec une question, mais quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Voilà, il a compris. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, réfléchir, c'est mon bien. Non ? Allons, pardon. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vous voulez le bien ? Le bien, c'est ça le bien. Oh, Seigneur, fais-moi du bien. Je voudrais le bien, connaître le bien. Eh bien, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Et j'aimerais terminer avec un verset dans l'Épître aux Hébreux qui indique vraiment cette affaire. Hébreux chapitre 4, c'est un merveilleux verset qui nous encourage à faire la même expérience. Vous voulez faire une expérience qui vous approchera de Dieu, qui vous donnera des convictions, comme Asaph, tu me recevras dans la gloire. Ça vous intéresse d'avoir cette conviction, de pouvoir dire oui, je sais une chose, c'est que Dieu me recevra dans la gloire. Est-ce que ça vous plaît ce programme? Est-ce que ça vous plaît? Que Dieu vous recevra dans la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un meilleur programme ? Dites-moi-le, parce qu'il y en a des programmes en ce moment qui circulent. Mais celui-là, moi je trouve qu'il est merveilleux. Avoir l'assurance que le Seigneur nous recevra dans la gloire, qu'il nous conduira, qu'il nous conseillera. Il s'est fait piéger par les copains peut-être. Est-ce que les gens peuvent nous éloigner de Dieu ? Est-ce que des chrétiens charnels, des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, peuvent nous éloigner de Dieu ? Oui, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est qui a mené ce combat ? Quand je vous ai dit tout à l'heure, vous me mettriez 3 ou 4 pages d'un combat vécu dans la journée, je sais que c'est vrai, ça serait facile presque. Ça serait facile, hein, tellement c'est compliqué. Hébreux 4, verset 16. Regardez cette exhortation, cet encouragement à vivre ces 4 promesses que l'on vient de lire. Il y a une condition. C'est une condition sine qua non qu'on appelle. Ce n'est pas possible autrement. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi ? Pour obtenir ou pour demander ? Parce que c'est là la question. C'est pas pour demander. C'est pour obtenir. Parce que la prière qui fait que demander, qui demande, ça devient de la superstition, c'est ridicule. C'est comme ça que Asaph, ça a dû se faire piéger. Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour Israël, mais à l'intérieur, ça allait mal. Il ne faut pas s'approcher de Dieu pour demander. Il faut s'approcher de Dieu pour demander afin d'obtenir. Afin d'obtenir 3 choses. La première chose, miséricorde. La deuxième chose, d'obtenir la grâce. Et la troisième chose, pour être secouru dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Alors, je vous pose la question, comment nous approchons-nous de Dieu ? Est-ce que c'est une évidence de s'approcher de Dieu avec assurance ? Voilà, c'est une question, une bonne question, vous pensez donc. Approchons-nous avec assurance. Alors, quand on est dans les combats, quand on s'est loupé, quand on a péché, est-ce que c'est possible ? Parce que c'est là la question. Mais on peut s'approcher avec assurance. Pourquoi ? Pas parce que nous on va bien, parce que lui nous accueille. Vous comprenez ? Parce que sinon, franchement, quelqu'un de normal, est-ce qu'on peut s'approcher avec assurance quand on voit la quantité de bêtises qu'on pense ? Non, c'est pas possible. Si on peut s'approcher de Dieu avec assurance, c'est parce que de son côté, il ne nous rejette pas. C'est pour ça, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est écrit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Le Seigneur Jésus, depuis qu'il est ressuscité au calvaire, il est assis sur le trône de la grâce. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne juge pas. Les gens, oui, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, si Dieu jugeait. Eh bien, écoutez, pour le moment, il vaut mieux d'ailleurs. Il vaut mieux qu'il n'intervienne pas. Pour le moment, le Seigneur, il est assis sur le trône de la grâce. C'est pour ça que vous pouvez vous approcher du trône de la grâce. Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai passé une mauvaise semaine. Mais je sais que tu es assis sur le trône de la grâce, tu ne me rejetteras pas. C'est ce qu'a fait Asaph. Asaph, dans sa confusion et dans sa douleur et dans son amertume, puisque son cœur s'est grissé, il a compris. Il a compris, mais bon, ça suffit, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même si les méchants prospèrent, après tout, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de réapprendre à te connaître. Et ce soir, on pourrait dire, mais moi, je veux réapprendre à le connaître. Oui, je peux m'approcher avec assurance. Si Dieu nous demande de nous approcher avec assurance, c'est qu'on peut s'approcher avec assurance parce que de son côté, tout va bien. Et vous pouvez croire que Dieu est assis sur le trône de la grâce. Quand dans l'Apocalypse, il est dit qu'il sera assis sur le grand trône blanc, ça ne sera pas du tout la même donnée. Mais là, on peut s'approcher de lui, du trône de la grâce, et d'obtenir miséricorde. Seigneur, je me suis trompé. Seigneur, je me suis loupé. Seigneur, j'ai fait ce qui n'était pas bien. Mais je sais que tu ne me traiteras pas selon mes péchés. Seigneur, je te demande pardon. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il a versé son sang, pour qu'on obtienne miséricorde. Gloire à Dieu. Et ce soir, vous pouvez, vous devriez obtenir miséricorde. Dieu ne me traitera pas selon mon péché. Dieu ne me traitera pas selon ma misère. Le Seigneur, il me fera miséricorde. C'est ça qu'on a besoin. Mais il ne faut pas que la miséricorde. Beaucoup de gens obtiennent miséricorde et ils s'en vont. Ils avaient péché, ils étaient malades. Ils ont obtenu miséricorde. Dieu ne les a pas traités selon leur péché, mais ils ne se sont pas installés dans la grâce. Parce que vous avez vu qu'il y a deux choses, en fait, en vérité trois. Il est dit obtenir miséricorde et obtenir grâce. C'est bien d'obtenir miséricorde, mais il vaut mieux s'installer dans la grâce de Dieu. Croyez-moi. Il vaut mieux s'installer et y rester. C'est comme ça qu'on retombe dans des combats pénibles lorsqu'on ne s'installe pas dans la grâce. Approchez-vous maintenant, faites une prière tout à l'heure à la maison, dans votre chambre, dans votre lit, prendre votre Bible. Seigneur, je vais m'installer, je veux cette grâce. Tu ne me rejettes pas, tu ne me repousses pas. Il l'a dit Jésus, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pour ça que vous pouvez vous approcher. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour vous pardonner et pour que vous puissiez vous approcher de lui avec assurance. Obtenir miséricorde, tu ne me traites pas selon mes péchés et tu me donnes ce que je ne mérite pas, c'est-à-dire le pardon. Tu m'ouvres le ciel. Oui, on peut le dire, nous aussi. Tu me recevras dans la gloire. Moi, je trouve que c'est un programme quand même intéressant. Parce que ça va durer quand même un peu de temps. Et être reçu dans la gloire pour une longue éternité, moi, je trouve que ça vaut la peine de s'approcher du trône. Vous ne croyez pas ? S'approcher du trône. Et ça, c'est n'importe quand. Tout à l'heure, vous dites, je vais reprendre le psaume. Moi aussi, je veux que tu me saisisses la main droite. La main droite, c'est toujours l'honneur, c'est une honneur. La droite dans la Bible, c'est la place d'honneur. Seigneur, tu m'honores. Mais ouais, tu m'honores de ta présence. Vous ne croyez pas qu'il est bon, le Seigneur ? Tu me recevras, tu m'accueilleras, tu me conseilleras. Tu auras le regard sur moi. Quel bonheur. C'est ça la miséricorde. C'est ça la grâce. Et en plus, tu me donnes, tu pourvois pour être secouru au moment opportun. Alléluia. Un besoin, je ne sais pas, peut-être demain il y aura un besoin, ou dans 3 jours, ou dans. Comment vous avez dans votre Bible ? Pour être secouru dans nos besoins. Qu'est-ce que tu as lu, toi ?
Et si vous êtes au bon moment.
Voilà, au bon moment. Voilà notre Dieu ce qu'il sait faire, nous aider au bon moment. C'est pour ça que quand vous approchez de Dieu, Seigneur, tu m'aideras au bon moment. Vous vous approchez de Dieu ce soir, mais croyez-moi, comme vous le faites, peut-être que dans 3 semaines, vous direz, ah tiens, c'est bizarre, pourtant je n'ai pas prié aujourd'hui, mais Dieu m'exauce. Eh bien, parce que Dieu anticipe et il vous aidera au bon moment. C'est écrit. Vous le croyez ? Oui, Seigneur, tu me recevras. Oui, tu m'accueilleras. Tu ne me rejettes pas. Tant que la porte est ouverte, tant que le Seigneur est assis sur le trône de la grâce, miséricorde, grâce et secours vous sont assurés. Asaf l'a expérimenté. Il ne faut pas qu'il n'y ait que Asaf qui l'expérimente. Il faut que nous aussi, nous l'expérimentions ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expérimenter cette affaire ? On va fermer les yeux quelques instants. C'est sérieux, hein ? C'est archi sérieux. Dieu ne fait pas de favoritisme. Toute grâce vient de Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Tout don, toute faveur, toute guérison. Tout vient de Dieu. Il n'y a pas d'acception de personne. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu bénit tous les gens qui font la même expérience. Alors on va le prier. Mais vraiment, simplement, joyeusement, arrêtez de réfléchir et de calculer et de spéculer et d'imaginer. Ça ne sert à rien. Mais j'entrerai dans ta présence le temps que j'aurai besoin. Et ça suivra. Et la grâce, et la miséricorde, et le secours, et les conseils, et l'assurance, et l'honneur d'avoir la main dans la main du Seigneur. Notre Père, nous ne voulons pas réfléchir avec notre intelligence, même si la réflexion spirituelle est bonne. Nous ne voulons pas réfléchir avec nos idées. Nous voulons réfléchir avec ta parole. Et l'expérience qu'a fait cet homme, je sais que l'homme ou la femme qui reproduira la même foi vivra la même expérience. Oui, nous approcher de Dieu, c'est notre bien, Seigneur. Nous approcher de toi, c'est une bénédiction. De réaliser que tu es assis sur le trône de la grâce. Et que tant que tu es sur ce trône, tu feras que les hommes pourront obtenir miséricorde, obtenir la grâce, obtenir le secours au moment voulu. Nous ne voulons pas douter de ces choses, de savoir, oui, que tu nous saisiras, que tu nous accueilleras dans la gloire. Quel bonheur, Seigneur! Et je te prie pour que ce soir tu aides celui ou celle qui est peut-être dans un combat qui ne se termine pas, afin qu'il puisse lui aussi s'appliquer à s'approcher de toi, à rentrer dans le sanctuaire par le biais de ta parole, par le biais de ton sang précieux, par le biais de la prière. Accorde-nous cette faveur, Seigneur, de savoir aimer nous approcher de toi. Merci de nous permettre, Seigneur, de nous approcher du trône avec assurance, parce que nous le savons bien, tu ne nous rejettes pas. Merci Jésus, merci pour la croix, merci pour le jour où tu as accepté de mourir au calvaire pour nous ouvrir le ciel. Merci pour ton sang qui a coulé. Oui Jésus, nous te bénissons. Oui, nous aussi, nous voulons vivre et mieux vivre encore, que nous approcher de toi, c'est notre bien. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, mes amis, que nous puissions augmenter cette expérience de nous approcher de lui avec assurance. Ne vous culpabilisez pas, ne laissez pas le diable sanctifier le nom du Seigneur pour lui. Vous avez compris le jeu de mots? Laissez le Seigneur vous accueillir, croyez-moi. Parce que le diable, c'est bizarre, comment tout d'un coup, il essaie de nous faire croire qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est pas vrai ça? Alors ne l'écoutez pas, lui, écoutez la parole. Et que Dieu nous aide à vivre ce qu'on a chanté tout à l'heure. Chercher le royaume de Dieu et sa justice et peut-être que le reste suivra. Voilà, que le Seigneur soit béni. Hein. Que Dieu nous aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de guérison dans son corps? Il y a peut-être quelqu'un de malade. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un de malade? Ben oui. Eh bien, qu'il vienne. On va prier pour lui. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut guérir quelqu'un? Vous le croyez? Moi, je le crois. Eh bien, venez. Venez, on se recueille. Venez, si quelqu'un veut. Je vais prier pour lui. Venez sur le devant, on va prier vraiment. Recueillons-nous, puisque c'est peut-être gênant pour quelqu'un, mais franchement, ne passez pas à côté. Il est l'Éternel qui guérit. Si quelqu'un veut, venez. Venez sur le devant. Si vous avez besoin, ne passez pas à côté. S'il n'y a personne de malade, tant mieux, c'est encore mieux. Mais si quelqu'un avait besoin d'une guérison, avancez-vous. Alléluia. C'est important que l'Église prie pour les malades. Ceux qui ont une maladie, l'Éternel est celui qui guérit. Alléluia. Prions ensemble.